Jean-Pierre Bernard, c'est du côté de l'escale que nous allons justement en faire escale, parce que le terme est complètement approprié. L'escale, c'est le patrimoine, c'est également votre histoire et l'histoire que vous aimez.
Bonjour. Ben, écoutez, déjà un petit peu parler de l'escale. L'escale est idéalement bien placée déjà, entre la mer et la montagne, hein, puisqu'on est pratiquement à mi-chemin entre Marseille et Grenoble. Vous voyez, donc bonne altitude, 450 mètres, donc c'est vraiment idéal. L'escale a quelques caractéristiques, en particulier l'escale c'est un rassemblement de hameaux. Donc l'escale c'est 11 hameaux, selon certains c'est même 15 hameaux, mais bon, c'est un peu discutable. Alors ces hameaux, ils portent tous des noms, souvent de famille ou de lieux, parce qu'il y a des raisons. Bon, et on va parler peut-être un peu des sites qu'on a à l'escale. On va commencer par le plus récent, qui est notre pigeonnier, que vous voyez lorsque vous venez de Digne, sur la droite. Alors ce pigeonnier, il a été construit en 1850. Par qui? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que ce qui est assez bizarre, c'est que normalement les pigeonniers, c'était à proximité de fermes. Et puis là, non, il est en pleine nature. Alors on peut imaginer qu'il y avait un potager à cet endroit et qu'on avait construit ce pigeonnier pour récolter la fiente des pigeons, puisque c'est un très très bon engrais pour les potagers. Alors ce que je dois signaler quand même, Marcel Avril a racheté toute la ferme et les terres environnantes, et je dois signaler, ils ont fait don du pigeonnier et de la bande de terre qui était autour à la mairie. Maintenant on va peut-être passer à un bâtiment un peu plus ancien, qui est notre église du Mandanois. Alors cette église du Mandanois, qui est au hameau de Lotte, si on remonte en 1064, il y a eu une église consacrée à Notre-Dame. Et c'était Notre-Dame du Mandanois. Et Pierre de Valonne, qui était le seigneur, a cédé cette église aux moines. L'église est devenue église conventuelle. Ensuite, elle est devenue église paroissiale. Elle a été incendiée en 1568. On l'a reconstruite. Et là, la pauvre, en 1610, a été saccagée pendant la Révolution par un régiment qui passait à l'escale. Elle a été restaurée au 19e siècle seulement. Livrée au culte exactement le 24 décembre 1854. Alors cette église, la quatre travées de longueur inégale, une nef voûtée en berceau, quatre chapelles. Ce qu'elle a de caractéristique aussi, c'est les vitraux qui ont été refaits sous l'impulsion de l'abbé Sauvert, qui témoigne vraiment de l'art un peu de l'époque. Elle a comme caractéristique également un autel. Et pour illustrer le culte immémorial à Sainte-Consorce, il y avait une chapelle à côté de l'église, qui était la chapelle Sainte-Consorce, chapelle très ancienne, qui a été démolie en 1961. Et de cette chapelle, on a retiré une pierre qui date, elle, du 6e ou du 7e siècle, qui serait un ancien autel mérovingien. Et donc cette pierre sert de support au nouvel autel qui a été consacré par l'évêque en 1982. Et puis ce que j'ai vu aussi, c'est le clocher qui a deux cloches, enfin qui aujourd'hui n'a plus qu'une cloche. Une cloche très ancienne qui datait de 1710, qui pèse 230 kilos. Et une petite anecdote, le soir de la libération, les escalés étaient tellement heureux qu'ils ont fait sonner les cloches à toute volée. La corde a cassé et ils sont allés dans le clocher pour continuer à taper sur la cloche avec un marteau. Et la cloche a été fêlée. Donc aujourd'hui, elle est à l'intérieur de l'église, à côté des fonts baptismaux. Mais elle est quand même classée monument historique depuis 1944. Alors on va peut-être remonter dans le temps, hein, puisqu'on était là dans les années 1800. On va aller au village de Vierre. Alors le village de Vierre, lui, c'est le vieux village. Il est à 738 mètres d'altitude, à 1500 mètres du hameau des Cléments. Et jadis, il y avait un château féodal, dont on voit encore les traces, château féodal qui était tout en haut de la butte. En dessous, il y avait une maison seigneuriale. Et puis, il y avait une petite église, très petite, Saint-Michel, avec un cimetière à côté. Ce hameau, il a toute une histoire, parce que pendant les guerres de religion, il a été pris, repris, repris. Pendant les guerres de religion, les protestants s'étaient réfugiés à Sisteron. Et puis, au bout de quelques temps, ils ont commencé à saccager la cathédrale, différentes exactions. Ce qui fait que le comte de Sommerive, qui était lieutenant général du roi, a fait le siège de Sisteron. Il l'a pris, il est rentré dans Sisteron. Et puis, quelques temps après, les protestants ont repris Sisteron. Donc, Sobrive est revenu. Il a refait le siège. Et puis, au bout d'un moment, il avait un problème d'approvisionnement. Bon, il s'est retiré aux messes pour attendre des renforts. Et pendant le trajet Sisteron-les messes, il s'est fait rattraper par un capitaine protestant, Paulon de Mauvin. Et grosse bagarre à l'escale. Paulon de Mauvin est blessé à la cuisse, donc il s'échappe, il part en retraite. Mais il y avait le comte de Carcès, qui s'appelait au départ Jean de Pontevest, qui était grand sénéchal, lieutenant du roi, mais plus communément appelé comte de Carcès, qui a vu le site et qui a dit « je vais édifier des fortifications pour justement protéger l'armée qui est au Metz d'un retour éventuel des Sisternais ». Donc il a fait construire des fortifications dont on voit encore un peu la trace. On remonte encore dans le temps ? Allez, avant Jésus-Christ. Alors je dois dire que j'y étais pas, mais on a eu, il y a peu de temps, une jeune femme qui s'appelle Émilie Porcher, qui a fait une thèse justement sur le Bourguet. Et qui nous a permis d'avoir quand même beaucoup, beaucoup d'informations, de bonnes informations. Alors, si on reprend entre l'âge de pierre et l'écriture, quasiment, à l'époque, la Durance, elle n'était pas navigable, mais elle était, il y avait des bateaux dessus. Hein. Pourtant, c'était un fleuve tumultueux, mais il y avait des bateaux, et il y avait ces bateliers, les nôtres, qui intervenaient, et on descendait quasiment jusqu'à Arles. La plupart du temps, ils pratiquaient le halage. Donc il y avait des chemins de halage qui étaient faits pour ces bateaux. On ne savait pas trop, mais à la fin du 19e, il y a eu des grues importantes qui ont fait affleurer justement les ruines du Bourguet. Et même dans un journal local, un ancêtre de Fréquence Mistral, hein, c'est le journal de Fort-Calquier de la Haute-Provence, du 25 avril 1886, on peut lire sous le titre « Un Pompéi provençal ». Oui. On peut lire, c'est une ville tout entière qui gît à environ 2 mètres de hauteur au-dessus des eaux de la Durance. Elle paraît avoir été fort grande et s'est étendue à plusieurs kilomètres au loin. Ce port du Bourguet, qui était grand, en fait, il s'étendait entre le vallon de Fonderas et le torrent des Neis, là où on faisait rouir le Chambre. Et la ville s'étendait entre les deux, avec des formes un peu très régulières, presque une ville à l'américaine. En 1973, parmi les découvertes qui ont été faites, il y en a une qui est importante pour nous, au niveau du patrimoine escalais, c'est la fameuse Minerve, puisque c'est notre emblème. Alors en 1959, il est décidé de faire un barrage à l'escale, donc vite on décide de fouilles, donc de 1960 à 1961 par Raymond Boulin. Et ces fouilles modernes ont mis en évidence trois étapes du Bourguet. D'une part, un siècle avant Jésus-Christ, la création de la ville. Ensuite, une montée en puissance jusqu'en l'an 273 après Jésus-Christ, où là, il y a eu un incendie important. Et puis ensuite, une remontée jusqu'au IVe siècle. Et là, il y a eu les invasions des barbares, ce qui fait que le site a été abandonné et les gens sont partis sur Vierre, qui était plus en hauteur, donc pour mieux se défendre contre les barbares. Il semblerait aussi qu'au XIIe siècle, il y ait eu un regain d'activité, mais on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vraiment dire quelque chose. Ce site du Bourguet avait une très grande activité, puisqu'on a retrouvé au niveau des maisons, les maisons étaient assez conséquentes. Il y avait des entrepôts, on a retrouvé par exemple des pressoirs, on a retrouvé également des meules pour moudre le grain, on a retrouvé les jarres pour le vin et l'huile. Donc il y avait un commerce qui semblait assez conséquent. Ce qu'on peut en dire, c'est que les gens avaient l'air de bien vivre, quoi, d'être assez aisés. Voilà ce qu'on peut dire sur le Bourguet, mais bon, on n'y était pas. Donc vous voyez, l'escale a quand même des choses très intéressantes et mérite le détour, n'est-ce pas ?
Jean-Pierre Bernard, un grand merci de nous avoir emportés dans les couleurs du temps au fil de votre passion et de votre connaissance. Un grand merci et à très bientôt.
Au revoir.
C'était Jean-Pierre Bernard, président de l'association du patrimoine escalais, au micro de Chris Alessandri.